dernière fois, quand on parlait de travail, on s'est quand même dit que c'était un lieu qui était traversé par plein de crises, enfin crise sociale, crise psychique, crise écologique. Et ce qui est beaucoup revenu, c'est que pour remédier à ça, il fallait ramener plus de démocratie dans le travail.
Ouais, en plus, c'est vrai que c'est un truc dont on n'entend pas trop parler dans la sphère politique. Enfin, les partis, ils parlent de travail. Alors, ils parlent de réduction, d'augmentation, de temps de travail, de que sais-je. Mais le sujet en tant que tel, de donner du pouvoir aux travailleurs sur ce qu'ils font, ça, c'est pas dans les programmes. Hein.
Bah, si, le PS.
Ah ouais, le PS. Révolutionner le travail, le PS.
Bah, vous vous souvenez pas, en 2017, Benoît Hamon, le revenu universel, tout ça.
Ah, mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'était pas mal, hein. C'était tellement pas mal que tous sont partis la lâcher.
Ouais, pauvre bebeu quand même.
Ouais, sérieusement, cette idée, elle vient quoi? Peut-être c'est par là qu'il faut commencer.
Ouais. Ce que je propose, c'est un revenu universel d'existence versé à toute personne majeure et d'un montant qui pourrait commencer par être au niveau du RSA socle, puis ensuite être à 750 € par personne.
Cette idée de revenu universel prend en compte le fait que beaucoup de nos activités non salariées, que ce soit prendre soin des autres, avoir des activités bénévoles ou faire des travaux dans sa maison, ont une utilité sociale.
Ça me semble être un argument qui permettrait de justifier le versement à toutes et tous d'un revenu inconditionnel, revenu suffisant pour continuer à contribuer activement au bon fonctionnement de la société.
Baptiste Milondo, enseignant en économie et en philosophie politique, auteur de « Ce que nos salaires disent de nous », publié aux éditions Payot en 2023.
Le fondement que j'utilise pour défendre ce revenu inconditionnel, c'est chacun, chacune, nous avons des activités qui contribuent à l'enrichissement collectif. En gros, nous contribuons à produire le gâteau collectif et à ce titre-là, nous avons toutes et tous droit à une part de ce gâteau et une part suffisamment grande pour continuer à le produire dans de bonnes conditions.
Les nouveaux sauveurs.
Les nouveaux sauvages.
Les nouveaux sauvages.
Les nouveaux sauvages.
Les nouveaux sauvages.
Le podcast qui prend au sérieux les idées folles.
Moi, j'appelle ça un revenu inconditionnel, mais il y en a d'autres qui vont parler de revenu de base, d'autres qui vont parler de revenu universel, revenu citoyenneté, revenu citoyen, etc. Du coup, si je dois schématiser, il y a des propositions de droite. Il y a des propositions de gauche, il y a des propositions ni de droite ni de gauche, donc de droite. Il y a des propositions de gauche généreuses et des propositions de gauche anticapitalistes. La différence entre ces différentes options va se jouer sur le montant qui est proposé. Dans les propositions de droite, on va avoir des montants qui sont faibles, que je qualifierais de volontairement insuffisants. Dans les propositions de gauche, on va avoir des montants qui sont plus élevés. L'objectif, c'est d'avoir des montants qui sont suffisants. Par suffisant, moi j'entends trois choses. Suffisant pour échapper à la pauvreté, suffisant pour échapper à l'exclusion et suffisant pour échapper à l'exploitation. Suffisant pour échapper à la pauvreté, ça veut dire que le montant du revenu inconditionnel doit être au moins égal au seuil de pauvreté. Donc, aujourd'hui en France, disons que pour une personne seule, c'est autour de 1 100 € par mois. Suffisant pour échapper à l'exclusion, ça veut dire que ce revenu inconditionnel doit permettre d'accéder aux biens et services essentiels. Et suffisant pour échapper à l'exploitation, ça veut dire que ce revenu inconditionnel seul doit permettre de se passer durablement d'emploi. Et donc ça permet d'échapper à l'exploitation dans le sens où ça permet de refuser un emploi si on estime que les conditions d'embauche sont pas satisfaisantes, que les conditions de rémunération sont pas satisfaisantes, que le cadre de travail est pas satisfaisant, que l'activité elle-même n'a pas suffisamment de sens. Donc en fait, on doit pouvoir refuser durablement ce type d'activité. Et c'est là que ça permet de remettre en cause l'impératif d'emploi. Et la différence du coup entre les propositions de gauche généreuse, enfin, ce que je qualifie de gauche généreuse, et les propositions de gauche antiproductiviste, anticapitaliste, c'est que les propositions de gauche généreuse consistent à dire on va verser un revenu à tout le monde, même à ceux qui ne produisent pas, parce qu'on est généreux, alors que les propositions anticapitalistes disent on va verser un revenu à tout le monde parce que tout le monde produit le gâteau. Donc c'est une forme de reconnaissance, enfin, c'est une proposition que j'appelle reconnaissante et pas généreuse, pas simplement généreuse.
Malgré sa popularité, l'idée de revenu universel subit de nombreuses critiques, pointées comme utopistes ou irréalistes. Pour ses détracteurs, son coût serait trop élevé et la mesure ne pourrait pas durer dans le temps, car les personnes ne voudraient plus faire certains boulots.
Généralement, la première question qui se pose quand on parle de revenu inconditionnel, enfin, la première objection qui est avancée, c'est on n'a clairement pas les moyens. On n'a clairement pas les moyens. En fait, on a clairement les moyens. Enfin, s'il s'agit de verser à tout le monde le seuil de pauvreté, par définition, de manière statistique, on a forcément les moyens. Dans n'importe quelle société, on a forcément les moyens d'assurer à tout le monde un niveau de vie au moins égal au seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, statistiquement, c'est 60% du revenu médian. Le revenu médian, c'est le revenu qui permet de partager la population en deux parts égales. On a forcément les moyens d'assurer à tout le monde 60% du revenu du revenu médian. Donc, c'est pas une question de manque de moyens, c'est une question de choix politique en matière de partage des revenus. Donc là, ça pose la question, est-ce qu'il faut le verser également aux plus riches? Et en fait, si je dis c'est une question de partage des revenus, ça veut dire que ce que j'envisage, c'est pas d'augmenter la taille du gâteau, en plus je suis décroissant, ce que j'envisage, c'est de partager différemment le gâteau. Donc, s'il s'agit de verser un revenu inconditionnel à Bernard Arnault et à ses enfants, c'est pas pour que Bernard Arnault et ses enfants soient plus riches, mais en fait, ils vont contribuer davantage au financement du revenu inconditionnel qu'ils ne vont percevoir de revenu inconditionnel. En fait, on prend dans une poche, on met dans une autre, mais à l'arrivée, plus on est riche, plus on va contribuer, et moins on va percevoir au titre du revenu inconditionnel. L'autre question qui se pose en fait quand on parle du financement, c'est est-ce que on peut financer durablement un revenu inconditionnel? Supposons qu'on mette en place un revenu inconditionnel tel que je viens de définir, il y a fort à parier qu'une partie de la population décide de moins bosser. Et si une partie de la population décide de moins bosser, alors on n'aura plus suffisamment pour financer le revenu inconditionnel. Mais là, il faut se questionner. Quel type d'emploi on a envie de quitter si on a 1100 euros en poche? Comment ça se fait en fait que on est la crainte que une bonne partie de la population quitte, enfin déserte l'emploi, si on met en place un revenu inconditionnel. Et pour le dire autrement, comment ça se fait qu'on se donne autant de mal chaque année à essayer de produire des emplois, si on se dit que dès qu'on a la possibilité de plus bosser, on sauterait sur cette opportunité. En fait, à mon sens, cet argument, enfin cette objection, c'est la meilleure défense de la décroissance. Si une fois qu'on a 1100 euros en poche, on se dit ça me suffit. Et je ne souhaite pas produire davantage, et ben en fait, il faut revoir complètement nos politiques économiques. Il faut arrêter de mettre en place des politiques de l'emploi qui visent à créer des emplois, ce que j'appelle une turbine à turbin, donc créer le plus de boulot possible, quelle que soit la qualité du boulot, quel que soit le sens du boulot, etc. Il faut rompre avec ça et au contraire mettre en place une politique de destruction des emplois, de libération du temps, parce que c'est ça l'enjeu, c'est mettre en place une société du temps libéré, plutôt que de chercher à créer des emplois et à produire toujours plus. Et ensuite, effectivement, on s'aperçoit que si on envisage la mise en place d'un revenu inconditionnel, il y a certains boulots qui vont être davantage désertés que d'autres. Et ça, ça me semble être une question essentielle parce que ça permet de se dire, aujourd'hui, on a le luxe de ne pas avoir à nous poser la question de la réalisation des tâches pénibles. Aujourd'hui, il y a des gens qui réalisent les tâches pénibles. En fait, on s'aperçoit que s'ils avaient la possibilité de ne pas le faire, ils ne le feraient pas. L'objection, en fait, qui consiste à dire, mais qui fera les tâches pénibles? Si on met en place un revenu inconditionnel, si on la prend en sérieux, ça revient à dire, heureusement qu'il y a des pauvres aujourd'hui dans notre société qui n'ont pas d'autre choix que de réaliser les tâches pénibles à notre place. Et à aucun moment, c'est juste, en fait. Donc, en fait, ce que je dis souvent, c'est que la plupart des objections qui sont posées au revenu inconditionnel peuvent aisément être retournées contre la société actuelle. C'est autant de questions qui sont posées à notre fonctionnement actuel. Aujourd'hui, on bosse beaucoup trop. On produit beaucoup trop. Si on imagine un revenu inconditionnel, on s'aperçoit que on ferait tout moins et vraisemblablement mieux. Aujourd'hui, il y a des gens qui réalisent les tâches pénibles à la place de tous les autres. À aucun moment, c'est juste. N'attendons surtout pas la mise en place d'un revenu inconditionnel pour questionner ces modes de fonctionnement.
L'idée du revenu inconditionnel, au-delà de la perspective d'une plus grande égalité entre chacun chacune et du droit à une vie décente, permet surtout de souligner les limites et les paradoxes de notre société productiviste.
Et donc du coup, moi j'utilise essentiellement ce revenu inconditionnel comme révélateur des problèmes de notre société aujourd'hui. Dès lors qu'on a un revenu inconditionnel en tête, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dans notre société, ou plutôt qui ne fonctionnent que sous la contrainte. Et à aucun moment, c'est acceptable.
La perspective d'un revenu sans condition permet aussi de se projeter dans une toute autre société, une société du temps gagné.
À mon sens, la réflexion sur le revenu inconditionnel ouvre l'horizon. Aujourd'hui, on est dans une logique de société de consommation, qui est une société de surconsommation, de surproduction. Donc on produit trop, on consomme trop, on travaille trop. Le revenu inconditionnel permet de se dire, en fait, si j'ai 1100 euros, et si les autres ont 1100 euros, sans doute qu'on va consacrer nos vies à autre chose, à d'autres activités que la production. Du coup, ça veut dire qu'il faudra consacrer aussi notre vie à d'autres activités que la consommation. On peut espérer que cette logique de temps libéré nous permette de valoriser des activités qui, aujourd'hui, ne sont pas valorisées, soit parce qu'on n'a pas le temps de les réaliser, soit parce qu'on a tendance, dans une société de consommation, à estimer la valeur du temps libre en fonction du niveau de revenu qu'on peut lui consacrer.
Mais pour Baptiste Milondo, paradoxalement, sa défense du revenu inconditionnel se fait sans la perspective de son application réelle.
J'ai l'habitude de dire, je défends le revenu inconditionnel sans espoir et sans attendre. C'est-à-dire que je ne pense pas que nous pourrons mettre en place un revenu inconditionnel tel que je le propose aujourd'hui. Et plus précisément, en fait, je me dis, si un jour nous sommes en mesure de mettre en place un revenu inconditionnel tel que je le propose, en fait, on n'aura vraisemblablement plus besoin du revenu inconditionnel. C'est-à-dire que le revenu inconditionnel, je le défends aujourd'hui tel que je le défends, parce que je le pense comme une réponse aux problèmes rencontrés par notre société. Mais s'il y a une majorité de gens qui se dit effectivement, notre société a ce type de problème, et qu'on se dit aussi, n'attendons surtout pas la mise en place d'un revenu inconditionnel pour nous attaquer à ces problèmes, en fait, vraisemblablement, nous n'aurons plus besoin du revenu inconditionnel. Si on est une majorité à être anticapitaliste, antiproductiviste, etc., ben en fait, sans doute qu'on transformera la société et on n'aura plus besoin de mettre en place le revenu conditionnel tel que je viens de le présenter. Mon objectif, ce n'est pas de mettre en place ce revenu conditionnel. Mon objectif, c'est de présenter ce revenu conditionnel pour, encore une fois, passer la société au révélateur de cette proposition.
Une fois la société passée au rayon X par la perspective d'un revenu inconditionnel, quelle est la solution ? Pour Baptiste Milondo, une partie de la réponse se trouve dans l'organisation même du travail. Appliquer dans le travail plus de démocratie, d'équité et de soins. Il déploie cette perspective dans son livre au titre sans équivoque, Travailler sans patron, coécrit avec le sociologue Simon Cotin-Marx et publié chez Gallimard en 2024. Certains essaient dès aujourd'hui de faire du travail un espace moins hiérarchique, plus horizontal et démocratique. On le voit dans certains collectifs autogérés, dans des associations, mais aussi des entreprises, avec l'exemple des coopératives. En particulier dans l'ESS. L'économie sociale et solidaire, qui représente 10% des emplois en France. Mais l'ESS, qu'est-ce que c'est plus exactement ? Un simple social washing ou une véritable transformation de la manière dont les entreprises s'organisent ?
Alors c'est compliqué à définir. D'une part, c'est un ensemble de structures qui se reconnaissent par différents types de statuts juridiques. Donc généralement, on dit l'ESS, l'économie sociale et solidaire, rassemble les associations, les mutuelles, les fondations, les coopératives. Ça, c'est une première définition, donc définition statutaire. Ensuite, il y a une autre définition possible sous l'angle des valeurs. En fait, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie alternative, donc pensée comme alternative à l'économie capitaliste, qui repose sur plusieurs valeurs, qui sont la démocratie, l'équité et le soin au collectif et aux membres du collectif. Nous, on se dit, et puis l'ESS, c'est aussi une économie qui a une histoire, qui est une économie qui a été initialement pensée aussi comme une économie de résistance, et c'est plus forcément le cas aujourd'hui. Donc effectivement, certaines structures de l'ESS aujourd'hui rentrent clairement dans une approche de social washing. Nous, ce qu'on essaye de dire en fait dans Travailler sans patron avec Simon Cotin-Marx, c'est que si on prend au sérieux les valeurs de l'ESS, alors il faut avoir une approche plus ambitieuse de l'ESS. Et ça devrait nous conduire à défendre l'autogestion. Et donc, c'est pour ça qu'on écrit « Travailler sans patron », c'est comment est-ce qu'on peut s'organiser collectivement pour respecter au mieux les valeurs de l'ESS et donc s'organiser sans hiérarchie, sans chef.
Les Nouveaux Sauvages, un jeudi tous les deux mois à 20h sur le 93.9 FM.
S'organiser sans patron n'est pas une idée nouvelle. En 1844, à Rochdale, petite ville située à quelques kilomètres au nord de Manchester, naît ce qui est considéré par beaucoup comme l'une des premières coopératives. Dans une industrie britannique naissante, 28 tisserands réclamaient sans succès des hausses de salaire. Constatant que leur niveau de vie dépendait non seulement des industriels, mais aussi des commerçants qui fixaient le prix de vente de leurs produits, ils décident de fonder leur association et d'ouvrir leur propre magasin coopératif. Les règles que vont se donner l'association, à savoir la libre adhésion, la gestion démocratique sur la base une personne, une voix, la répartition des bénéfices entre les membres de la société et la rémunération limitée du capital demeure encore aujourd'hui celle du mouvement coopératif à travers le monde. Et de l'autre côté de la Manche, l'idée de coopérative et d'autogestion se popularise, notamment à la suite des mobilisations ouvrières et étudiantes de 68, et plus particulièrement avec l'affaire LIP.
L'intersyndicale CFDT, CGT et CGC de LIP lance un appel pressant à toutes les personnalités susceptibles de prendre la parole afin d'empêcher la braderie de LIP et de l'horlogerie française.
En avril 73, les 1300 salariés de cette entreprise horlogère de Besançon lancent une grève générale après la découverte d'un plan de licenciement massif. Les travailleurs séquestrent des membres du conseil d'administration le temps d'une nuit, puis occupent l'usine. Récupérant le matériel, ils organisent des ventes sauvages de montres pour se payer. En juin, une assemblée générale décide de relancer la production sous leur propre contrôle et adopte un slogan devenant symbole de l'autogestion. On fabrique, on vend, on se paie. Mais l'expérience inquiète le patronat et le pouvoir politique. Car derrière la remise en cause de l'autorité patronale, c'est la propriété privée même des moyens de production qui est défiée, et derrière elle, l'ordre économique capitaliste. En réaction, et après des semaines d'autogestion, le 14 août 73, l'État, avec à sa tête le président Georges Pompidou, ordonne l'évacuation de l'usine par les CRS.
Qu'est-ce que ça vous fait de quitter l'usine ?
Ça fait mal au cœur.
Ok.
Ah oui.
Ça faisait combien de jours que vous teniez là-dedans?
119.
Bientôt 4 mois.
Ça faisait 4 mois le 17.
Malgré la fin de l'occupation, la lutte continue hors des murs. Une marche de soutien est organisée à Besançon, avec plus de 100 000 personnes venues de toute la France et de l'étranger.
En bas de tous les travailleurs,
Et la lutte paie. Une reprise partielle est finalement organisée en 1974, avec la promesse de n'avoir aucune perte d'emploi. Mais malheureusement, 2 ans plus tard, l'entreprise connaît de nouvelles difficultés et l'IP est définitivement liquidée. L'ancien ministre de l'Industrie, Jean Charbonnel, confiera dans un documentaire en 2007 que le nouveau président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, et son premier ministre, un certain Jacques Chirac, auraient assassiné l'IP. Les travailleurs avaient osé défier l'ordre patronal. Pire, ils avaient remporté la bataille. Il fallait en faire un exemple et les punir. Comment ? Renault, entreprise encore nationalisée à l'époque, annule du jour au lendemain ses commandes de montres. Et le ministère de l'Industrie supprime un versement promis. Malgré tout, l'affaire LIP reste un symbole fort de l'autogestion en France et révèle ce qui n'était pas encore une évidence pour beaucoup. Oui, les travailleurs peuvent s'organiser collectivement.
Ah ouais, ok, LIP, ça a été hyper fort quand même, hein. Mais ce serait bien qu'on prenne des exemples un peu plus actuels, non ?
Bah ouais, carrément. Il y a toutes les structures de l'ESS, par exemple, dont nous parlait Baptiste Mimondo. En plus, ça regroupe pas mal de monde, je pense.
Ouais, après, c'est ce qu'il disait. Enfin, l'ESS, c'est assez large quand même. Ça veut pas forcément dire qu'il y a un fonctionnement démocratique. Genre, il y a quand même des associations où le fonctionnement, il est ultra vertical, quoi.
Oui, c'est vrai, mais il y a quand même des formes juridiques dans l'ESS qui peuvent être plus faciles pour organiser un fonctionnement démocratique si les gens impliqués dedans font en sorte que ça existe. Genre les SCOP, par exemple.
C'est quoi une SCOP ?
En gros, une SCOP, donc, c'est des sociétés coopératives et participatives, et c'est des entreprises qui appartiennent majoritairement à ses salariés. Donc pas forcément tous les salariés de l'entreprise, mais les salariés qui ont investi une part dans le capital de l'entreprise, qu'on va appeler des salariés sociétaires ou coopérateurs. Et en fait, la différence avec une entreprise classique, on va dire, avec des actionnaires, c'est que quand il y a des actionnaires, plus ils vont apporter de thunes dans la structure, plus ils vont avoir de poids dans les décisions de celle-ci. Alors que là, peu importe combien les salariés ils ont mis comme argent, eh ben, c'est toujours une personne égale une voix. Même si t'as pas mis beaucoup, c'est toujours une voix.
Ok, trop bien. Bah, ce serait bien qu'on aille en voir une pour voir comment ça marche et tout.
Ouais, mais en plus, j'ai une idée.
Mon enregistreur sous le bras, je me rends à la porte d'Aubervilliers, dans un endroit où je ne suis encore jamais allée. Là-bas, les rues et les hangars se confondent et j'essaie de reconnaître celui des Cargonautes.
Bonjour.
J'ai un rendez-vous.
C'est pour une formation ?
Non, c'est pour un reportage.
Ah, et c'est pour qui l'entreprise ?
C'est le Cargonautes.
Ah, ouais. Bah c'est si, ok, très bien. Rentre avec moi.
Créé en 2015 par 2 anciens coursiers Deliveroo, l'entreprise livre à peu près tout en vélo-cargo dans Paris et sa proche banlieue. Depuis 2019, l'entreprise n'a plus de patron au sens strict du terme. Elle a été rachetée par ses salariés et est devenue une SCOP, une société coopérative et participative. Une fois à l'intérieur, je retrouve Claire. Responsable d'exploitation du site et coursière, elle me fait une visite des lieux.
Déjà, on est où là ?
On est où ?
Ouais, on est dans une espèce de zone industrielle avec...
Ouais, on est dans une des dernières zones industrielles de Paris.
Ok.
On est hyper proche du périph', c'est très pratique pour nous.
Cette architecte de formation me raconte qu'elle est rentrée en tant que coursière dans l'entreprise il y a un peu plus de 4 ans. À la fois parce qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait envie de travailler dehors, à vélo, mais aussi parce qu'elle était spécifiquement à la recherche d'un fonctionnement coopératif.
Du coup, il y a la cyclo-logistique dans laquelle il y a livraison, préparation de commandes. Et après, on a un peu de vente de vélos. Donc là, c'est là où on mange et on fait des raclettes de temps en temps.
Okay.
Il y a un coin sieste avec des hamacs. Là, c'est l'endroit où on monte les box qu'on met sur les cargos. Et dans les bureaux où tu es passé, il y a une équipe qui développe le logiciel qu'on utilise et qu'on vend aussi.
Okay.
Et ça, c'est l'étagère de notre cuisine à nous. Il y a des personnes qui sont payées pour cuisiner.
D'accord.
Et tous les jours, on mange chaud et gratuitement.
Ok.
Et les gens qui cuisinent, c'est des gens qui font d'autres tâches dans l'entreprise.
David, il fait de la course. Il y a aussi Chloé qui était avant sur le pôle conseil et formation et qui maintenant fait course, entrepôt et cuisine. Et Pierrot qui, lui, est coursier. C'est au volontariat.
Ok.
Et après, il y a une équipe qu'on appelle le cercle management. Et, ouais, et le cercle management, en fonction du profil, du comportement, est d'accord ou pas d'accord.
Okay.
Parce qu'en fait, c'est un poste où il y a quand même de l'autonomie.
Il y a des gens qui savent pas cuisiner aussi.
Ouais, mais alors ça, c'est pas le critère. En fait, ici, il y a quelques personnes qui ont été formées pour ce qu'elles font, mais la plupart, on est arrivé sans vraiment savoir faire. On a juste appris. Du coup, le critère de « tu peux pas faire ce que tu sais pas », il n'existe pas trop. C'est t'as envie, ok.
La polyvalence est au cœur du fonctionnement des Cargonautes. Et ce que tous les salariés ont en commun, c'est la course. Peu importe leur ancienneté ou leur place dans la hiérarchie, ils roulent. D'abord pour des raisons logistiques, c'est essentiel que chacun puisse enfourcher un vélo et assurer une tournée en cas de besoin. Et puis, il est nécessaire que tout le monde connaisse la réalité de la livraison à vélo, comptable, gestionnaire ou ouvrier, afin de prendre des décisions en phase avec les contraintes du terrain.
Le fait d'être en coopérative, tu vois, est-ce que d'avoir cette expérience-là, tu dois retourner dans une entreprise un jour plus classique, hiérarchique?
Je pense pas.
Non?
Non.
Pourquoi?
On a un rapport à la hiérarchie qui est quand même un peu spécial, où en fait, si tu t'investis et si tu fais des choses et que ça pose pas de problème, on te laisse les faire et tu prends du coup plus de responsabilités et tout. Ce que je fais, ça a du sens. Je le fais pas pour quelqu'un qui s'enrichit sur mon dos. J'ai l'impression qu'il y a des boîtes qui sont pas des coopératives et qui ont un peu cette culture-là. Parce qu'il y a quand même des fois où tu es très fatigué, en colère et tout, et où tu te dis, faut que je parte. Mais dès que tu regardes ce qu'il y a ailleurs, tu réfléchis à améliorer les choses ici.
Finalement, ça a été le micro.
Comme s'il n'était pas là.
Ouais, ça s'oublie, hein.
Ça va. Hop, manger.
Au déjeuner, je fais connaissance avec d'autres salariés.
Je m'appelle Gaëtan.
Enchanté Gaëtan, moi c'est Blanche. Du coup, tu me disais que tu étais arrivé il y a un an.
Ouais, c'est ça, septembre 2024. Ma formation de base, c'est chaudronnier industriel. Okay. Je viens de Brest dans le Finistère et j'ai travaillé pendant 8 ans dans la construction navale militaire. Puis un jour j'ai eu un déclic en mode genre oh là là, mon travail consiste à entretenir la guerre et du coup j'ai dit stop.
Toi tu me disais que par exemple t'étais pas sociétaire ici.
Non.
Pourquoi du coup choisir de travailler dans une coopérative sans devenir sociétaire?
L'accès au sociétariat est un peu compliqué parce qu'il faut apporter une somme d'argent que je n'ai pas forcément.
Okay.
Voilà. Mais ouais, je me pose vraiment la question là ces derniers temps, ça fait depuis plus d'un an que j'aimerais bien participer un peu plus aux prises de décision, même si les prises de décision se font quand même en équipe lors des réunions mensuelles. On a une réunion obligatoire avec toute l'équipe. D'autres types de décisions qui sont prises uniquement par les sociétaires. Dans la coopérative ici, il y a tout de même des chefs d'équipe parce que il y a quand même un RH, il y a un cercle management et tout. Mais ces cercles-là et ces chefs d'équipe, c'est uniquement pour structurer, entre guillemets, la coopérative. Mais on n'a pas d'ordre direct. En fait, c'est une hiérarchie plate, entre guillemets. Et ce qui permet aussi de pouvoir faire des propositions. On a beaucoup plus accès à l'autonomie dans le travail. Il n'y a pas besoin d'avoir fait sentir pour avoir des bonnes idées, quoi. Léna. Ou bien des très grandes écoles supérieures. Voilà. Et pour avoir travaillé dans des entrepôts, dans des ateliers de chaudronnerie, avoir rencontré des gens qui avaient passé 30 ans sur leur poste de travail, qui n'avaient rien fait d'autre et qui avaient plein de bonnes idées, mais qu'on n'écoutait pas parce que ce n'était qu'un pauvre ouvrier dans l'atelier. C'est dommage parce que le savoir, il est à tous les étages.
Après Gaëtan, je croise Antoine, fraîchement arrivé chez les Cargonautes Il sort d'une grande école de commerce et il a trouvé ce poste de coursier à vélo en attendant de trouver un emploi en lien avec ses études.
J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur la décroissance et l'entreprise. Et donc voilà, j'ai un peu exploré ça, les modèles alternatifs d'entreprise et à quoi ça ressemble une entreprise qui arrête de croître et qui met la démocratie, qui met de l'écologie dans son fonctionnement. Et donc aller travailler dans une coopérative, pour moi, c'était vivre une utopie en gros. Bon, après, quand tu travailles au jour le jour chez Cargonaut, tu sautes pas au plafond, t'as pas fait la révolution, mais c'est quand même super à vivre, je trouve.
Là, j'ai peut-être des opportunités pour travailler sur la logistique urbaine durable au ministère des Transports, donc là, j'attends une réponse. Mais dimanche après-midi, j'ai fait un tableau comparatif de est-ce que je continue chez les Cargonaut et je vis l'utopie de la coopérative, ou est-ce que je prends mon taf au ministère comme un étudiant d'HEC lambda, enfin lambda même pas, mais voilà. Mais parce que il y a un truc qui m'a beaucoup inspiré chez Tolstoï, il dit que l'homme pour être heureux doit effectuer 4 types de travaux dans sa journée, le travail du corps dur qui fatigue tes jambes et tes bras, le travail minutieux artisanal des mains. Ensuite, le travail intellectuel de la réflexion, de la production intellectuelle. Et ensuite, le travail social, de travailler avec les autres pour travailler ta citoyenneté ou la démocratie. Et si je fais un job de cadre dans la transition écologique lambda, je ne peux faire qu'une chose, le travail intellectuel. Alors qu'ici, il y a du travail intellectuel, potentiellement, qui va venir. Il y a du travail... Il y a aussi du travail du corps, il y a aussi du travail de démocratie à venir dans la coopérative. Et donc il y a presque tout. Donc moi je trouve que cette utopie de la coopérative où tu peux faire des postes hybrides ouvriers et intellectuels, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour trouver ton équilibre en tant que personne.
À la suite du repas, Paul, gérant de la structure élu à son poste par ses pairs, m'invite à discuter dans le calme des bureaux de l'étage.
Moi, je me considère pas comme patron. Enfin, c'est mon entreprise, mais au même titre que les 27 associés que j'ai, tu vois. Et je me considère plutôt comme salarié d'un collectif de travail. Voilà, après, j'ai ce rôle de dirigeant, tu vois. Mais je pense que c'est quand même un rapport assez différent de celui des autres patrons ou patronnes que je peux côtoyer, tu vois.
Issu, comme beaucoup d'autres salariés, du monde des plateformes de livraison de repas, il a débarqué là un peu par hasard, en 2016, quelques mois après la création de la boîte.
Je suis arrivé, j'ai demandé s'il y avait du boulot, on m'a dit « Ah non, peut-être pas ce soir ». Je laisse mon numéro, une heure après on me rappelle, on me dit « Tiens, une tournée ». J'étais jamais monté sur un vélo cargo, j'ai testé le vélo, je me suis cassé la gueule. Et après je suis parti en tournée.
En 2019, ils sont 10 salariés, dont les deux actionnaires principaux de base, à racheter la boîte et à la transformer en SCOP.
Je pense que ça correspondait à un système de valeurs dans lequel on était, enfin, tu vois, de refus d'un certain fonctionnement du monde capitaliste et extractiviste. Et puis on venait du modèle des plateformes où là, c'est vraiment l'archétype de ce que peut faire une société libéralisée, où tu es payé à la tâche, tu as zéro protection. Et où ta seule valeur ajoutée en tant que travailleur ou travailleuse, c'est ta force de travail, ton corps. Et puis après, il y avait aussi des raisons structurelles. Enfin, la boîte, elle était dans le mal financièrement.
Aujourd'hui, la coopérative est organisée en deux pôles. D'un côté, un pôle économique, qui fonctionne comme une activité d'entreprise classique. Il y a une hiérarchie fonctionnelle, des postes à responsabilité, des encadrants intermédiaires et des ouvriers. À côté, il y a le pôle de gouvernance politique, dans lequel là, tous les sociétaires sont égaux, peu importe le capital qu'ils ont investi dans l'entreprise. La vie démocratique de la SCOP est alors rythmée par des assemblées générales, 2 ou 3 fois par an, des séminaires et d'autres réunions ponctuelles. Lors des AG sont votées l'entrée de nouveaux sociétaires, la stratégie à moyen et long terme et des sujets de fond comme ceux d'équité par exemple.
Mais équité dans la répartition des tâches, de la charge mentale, des rémunérations, tu vois, on a une échelle de rémunération qui est assez resserrée. On a un coefficient de 1,7 entre le plus bas et le plus haut salaire. Et cette grille salariale, d'ailleurs, elle a été construite et votée au niveau du sociétariat, qui est toujours un sujet assez sensible, tu vois. parce que bah, ça touche à la valeur de ton travail, tu vois, et la valeur de, bah, des conditions de ce travail aussi, tu vois, genre combien ça vaut la pénibilité physique, combien ça vaut la charge mentale, combien ça vaut la responsabilité. Mais bon, c'est des débats qu'on arrive à avoir et de façon assez apaisée, en fait, et pour moi, c'est plutôt un signe de maturité.
Les AG ont lieu à l'étage du bâtiment, dans une petite salle où les chaises s'entassent dans un joyeux bordel.
Est-ce que ceux de demain, ils peuvent s'avancer pour ceux de derrière? Sinon, il y a une chaise.
Bon, alors du coup, on va commencer par la vigie 2026.
Aujourd'hui, la boîte compte 41 salariés. Environ la moitié d'entre eux sont sociétaires. L'accès au sociétariat se fait sur volontariat et nécessite un apport en capital compris entre 800 et 1200 euros selon la tranche de rémunération. Paul espère un jour arriver à un taux de sociétariat qui tourne plus autour des 80%.
Mais sachant qu'on ne veut pas non plus forcer la main aux gens, et la situation qui serait, je pense, pas souhaitable, de mon point de vue en tout cas, c'est d'avoir des sociétaires pas du tout investis, tu vois, avec des taux de présence aux AG de, je sais pas, 50%. Là, actuellement, on fait une AG, t'as 80-90% des sociétaires qui sont là.
Quelques règles, déjà pas de... On s'exprime à tout le monde, donc pas de baisse basse. On s'écoute, on lève la main quand on veut parler, pas de téléphone, et le respect du temps.
Okay. On ne veut pas se développer au-delà de 50-55 salariés, par limite empathique, tu vois. En fait, on veut rester dans une boîte où on connaît les gens, et... Ça, pour le coup, je pense que c'est aussi... je ne sais pas si c'est une spécificité de Cargonaut, mais en tout cas, tu as un modèle où tu veux conserver l'humain au centre. Et là, pour le coup, il y a un lien direct avec la démocratie. C'est que nous, on a un modèle de démocratie directe. Tu as l'instance, en fait, de décision stratégique, c'est l'Assemblée Générale. Après, quand tu deviens plus gros, en fait, tu es obligé de rajouter des strates, tu vois, de gouvernance intermédiaire, genre un conseil d'administration et tout. Ou quelque part, bah, tu crées aussi de la distance avec la base, quoi. Je pense qu'on n'a pas du tout le même niveau de maturité aujourd'hui que celui qu'on avait en 2019. Enfin, honnêtement, en 2019, même je me souviens, les discussions qu'on avait avant de passer en coopérative, en fait, on n'avait aucun référentiel. Donc ça avait l'air chouette, tu vois. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est quoi être copropriétaire d'un commun de travail, de décider collectivement de où est-ce qu'on veut aller? C'est tout un apprentissage. Enfin, je veux dire, on n'est pas acculturé à ces fonctionnements-là, tu vois. Et en fait, maintenant qu'on est plus connecté à d'autres entreprises, qui ne sont pas forcément des coopératives d'ailleurs, mais aussi à l'univers coopératif, on se rend compte que juste il y a plein de visions différentes là-dessus. J'ai l'impression que nous, on est quand même une coopérative qui essaye d'aller assez loin quand même dans l'horizontalité, dans la transparence des informations, dans les prises de décision collectives. Le débat, c'est un peu toujours le même. C'est ce que tu essayes de t'insérer dans ce système, tu vois. Moi, en vrai, je pense que la SCOPE, c'est quand même une... En tout cas, la SCOPE telle que je la conçois, où tu vois, tu as une vraie... information, une vraie formation des salariés, une vraie participation aux décisions et à la définition à la fois des règles et des objectifs d'un collectif de travail, et pour solutionner en fait surtout des problèmes des problèmes sociétaux, tu vois. Et ça, pour moi, c'est quand même une super réponse, tu vois, en tout cas des trucs qu'on peut faire là maintenant, alors qu'il y a plein d'autres choses, en fait, on peut pas les faire tant qu'il n'y a pas une révolution ou un changement radical, tu vois. Et en vrai, moi, je le souhaite, ce changement radical, bien sûr, mais est-ce que, tu vois, avant que ça advienne, on doit juste attendre, tu vois, enfin... Ouais, c'est pas évident. Hein.
Difendiamo, oh, oh, lì, lì, là, e la Lega crescerà.
orgoglio, abbassate la superbia, abbassate la superbia, e voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio, oh oh, lì oh, lì oh, là, e la Lega la crescerà, e noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori, oh lì oh, lì oh, là, e la Lega la crescerà, e noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
C'était La Lega, une chanson de lutte italienne emblématique de la révolte des ouvriers agricoles à la fin du XIXe siècle et interprétée par le groupe Canzionere delle Lame. Les Nouveaux Sauvages, le podcast qui prend au sérieux les idées folles.
En vrai, j'ai vu que des initiatives comme celle des Cargonautes, là, il y en avait plein. Mais bon, ça reste assez minoritaire. Et surtout, ce que je me disais, c'est que ils sont clairement pas dans un modèle qui leur permet de prospérer. Enfin, c'est pas favorable, ni les conditions économiques, ni le fait... Enfin, c'est pas le modèle dominant. Et du coup, ça leur permet jamais d'aller vraiment au bout de leur démarche, quoi.
Ouais, il y a un moment, dans les années 60-70, bah, quand il y a eu Libre, par exemple, où là, il y avait tellement une effervescence autour de la démocratie dans le travail, que ce soit par les ouvriers, ouvrières, travailleurs, travailleuses eux-mêmes, ou même des penseurs qui ont grave théorisé le truc, que là, on pouvait se dire que ça aurait pu être devenir une norme.
Ouais. Mais d'ailleurs, c'est Pietro qui m'a parlé de ça l'autre jour. Il m'a dit que si on parlait de démocratie dans le travail, il fallait absolument qu'on parle des mouvements autonomes des années 60 en Italie.
Pietro, c'est notre pote italien. Il prépare une thèse en philosophie politique et sur la question de l'autonomie, il en connaît un rayon.
Bah, on pourrait aller le voir d'ailleurs, non ?
Ouais, mais je crois qu'il est en Italie justement en ce moment.
On l'appelle ?
Ouais. Toi, tu m'entends bien, moi j'ai mis un casque, normalement tu l'aimes.
Après une petite mise à jour sur nos vies dont on passera les détails, on rentre dans le cœur du sujet. Déjà, qu'est-ce que l'autonomie ?
Autonomie, c'est un terme un peu ambigu, tu peux l'entendre dans un sens large ou dans un sens restreint. Au niveau historique, c'est un terme qui commençait à apparaître déjà dans les années 60. Et au début, ça, c'est pas encore le nom d'un type de pratique politique. Au début, c'est vraiment un mot un peu technique pour désigner quoi? Eh ben, l'indépendance des mouvements ouvriers de base, on va dire, par rapport au contrôle et au pouvoir exercé à la fois par le syndicat et le parti. Une des premières revues qui parle d'autonomie ouvrière, ça s'appelle Classe Operaia, classe ouvrière.
Okay.
C'est une revue des années 60 dirigée par un intellectuel très important de la lutte italienne qui s'appelle Mario Tronti. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit, eh ben, jusqu'ici, la lutte ouvrière, elle a été divisée en économique et politique par le parti et les syndicats et ainsi contrôlée. C'est que le parti prenait en charge l'autorité de conduire la lutte sur le plan politique et social, le syndicat sur le niveau économique, c'est-à-dire, bah, négocier les contrats, les conditions de travail et tout ça. Et ça, évidemment, ça divise la lutte, ça divise la conscience de classe, ça divise la possibilité de action réelle d'un point de vue révolutionnaire. Et du coup, autonomie, au début, ça veut dire juste ça, ça veut dire reprendre le pouvoir en main en étant indépendant du syndicat et du parti.
Pietro m'explique alors que l'occupation de l'usine de voitures Fiat à Turin en 1971 a été l'un des moments clés de l'histoire du mouvement autonome italien.
Il y a cette occupation-là en 71, et c'est une des premières occupations, parce qu'on faisait souvent du blocage, de la grève et tout, mais l'occupation, pas vraiment beaucoup. Et c'est là qu'on dit que l'autonomie, mais cette fois comme projet politique, vraiment, naît. Et là, il y a un nouveau sens, du coup, du terme autonomie. C'est plus juste, techniquement, l'indépendance par rapport au syndicat ou parti. C'est vraiment les projets politiques d'une organisation ouvrière par le bas, et surtout qui n'opère plus selon la même logique temporelle. Pourquoi c'est important de dire deux mots sur la logique temporelle? Parce que ça change vraiment le cadre de l'analyse révolutionnaire. Évidemment, tous ces gens-là, ils pensent un tel marxiste. Et tu sais, jusqu'à la fin des années 60, l'idée d'un marxisme un peu léniniste, c'est pour la révolution, il faut attendre à la fois qu'il y ait des conditions objectives, c'est-à-dire que la situation réelle soit mûre, soit prête, mais il faut aussi des conditions subjectives, c'est-à-dire la conscience de classe, la classe qui est de classe en soi, c'est-à-dire des classes des ouvriers qui existent en tant que les catégories socio-professionnelles de la sociologie, quoi, qui passe de classe en soi à classe pour soi, c'est-à-dire qu'il prend conscience. Et il y a cette idée, du coup, que la révolution, quand elle est prête, va faire basculer vers la dictature du prolétariat, tout ça, Et là, l'autonomie, au contraire, ça devient une autre temporalité, ça devient ici et maintenant. Ici et maintenant, construire un autre monde où il y aura un autre centre de pouvoir, en fait, un autre exercice du pouvoir et une autre distribution des rôles, des pouvoirs, des hiérarchies. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que c'est... Ça veut dire les centres sociaux, par exemple, tu vois. Ça veut dire les occupations, ça veut dire pas payer les loyers et créer des quartiers autogérés. C'est-à-dire commencer à construire du contre-pouvoir et une autre forme aussi de solidarité sociale qui n'est pas celle du travail salarié et qui s'oppose complètement au modèle capitaliste. Mais maintenant, tu vois, il ne s'agit pas d'attendre la révolution qui va venir un jour. Et il ne faut pas surtout jouer que sur le terrain de l'ennemi. Par exemple, jusqu'à la fin des années 60, beaucoup de luttes, ça s'est joué autour des échéances contractuelles. C'est-à-dire tous les 3 ans, en Italie, dans certains secteurs de l'industrie, il y a une négociation des contrats entre le syndicat et les patrons. Donc, on va négocier, on va faire des grèves pour avoir des meilleures conditions de travail, par exemple, réduction de l'horaire, paiement plus haut des heures du dimanche, un salaire meilleur. À partir des 69, et c'est un peu notre 68 à nous en Italie, c'est les 69 et on l'appelle l'automne chaud. À partir de là, il s'agit plus juste de de négocier les contrats, tu vois. Parce que là, l'idée, c'est vraiment de refuser un bloc, un système et de construire un autre réseau là, maintenant, tout de suite. Donc, c'est pas qu'ils sont pas révolutionnaires, c'est plus qu'ils changent de modalité d'action, de type de pratique.
Peu à peu, l'autonomie ouvrière se structure avec une vision antisyndicale, notamment à Turin et à Rome. Les luttes débordent de l'usine. Le logement, la ville, la vie quotidienne deviennent des terrains politiques à part entière. Et c'est dans ce contexte qu'émerge le refus du travail salarié.
C'est comme si d'un coup, la dimension du social, elle devenait un enjeu à part, en soi, tu vois, dont il faut analyser les rapports avec l'économie et les politiques, mais qui prime. C'est l'autonomie dans le travail et c'est aussi l'autonomie par rapport au travail, d'où la notion de refus de travail. Il s'agit non seulement de négocier des meilleures conditions du travail, ce qui était un peu la définition de base marxiste, pas Marx lui-même, mais marxiste, de c'est réapproprier les moyens de production, donc en continuant à faire un travail salarié. Là, il ne s'agit pas seulement de ça, il s'agit de mettre en question le salariat comme institution. Et donc, il s'agit de mettre en discussion le mode de production capitaliste lui-même.
Ce refus du travail est lié à une forme d'indocilité grandissante en Italie. Une indocilité qui s'explique aussi par l'évolution de la classe ouvrière.
Alors là, tu as ce que les gens de l'autonomie appellent une récomposition de classe. Parce que avant d'aller dans les usines de Turin, Milan, t'as quoi ? T'as des ouvriers, dans des familles ouvrières qui sont habituées à l'usine, qui pensent avec une pensée de gauche, plus ou moins modérée, plus ou moins réformiste, plus ou moins radicale, mais qui restent quand même fiers, orgueilleux de leur savoir-faire, qui veulent se réapproprier les travails, les moyens de production. Ça, dans les années 60, non ? Et il y a tous ces méridionaux qui arrivent et qui comprennent absolument, du coup, rien au monde de la grande usine et de la grande ville. Il se retrouve d'un coup à Turin où il fait gris, il fait moche, il bosse 14 heures par jour, et ça les fait chier, tu vois. Et du coup, ils sont pas en mode, non, orgueil, réappropriation du travail, ils sont en mode, nique ta mère, enfin, j'ai pas envie de travailler pour toi. Et du coup, ils vont faire du sabotage, ils vont pas aller au taf un jour, voilà.
Ces dynamiques indociles ne sont pas propres à l'Italie. On les retrouve ailleurs, sous des formes différentes, notamment en France ou aux États-Unis. Mais partout, elles finissent par inquiéter les pouvoirs en place.
Il y a les livres de Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable, qui parle de la contre-révolution, cette contre-révolution-là, et de comment est-ce que ça a vécu du côté des cols blancs, des classes dirigeantes. Et lui, il va lire ce qui s'est publié, tu sais, dans les magazines, genre, je sais pas, moi je connais pas le nom, je me rappelle pas, mais
genre Forbes,
Wall Street, oui, voilà, des trucs comme ça. Et les gens, pendant les années 70, ils disent des dingueries. Tu peux pas y croire. Ils sont en mode l'entreprise capitaliste est un dinosaure, ça va disparaître dans les prochains 3 années si on fait pas quelque chose. On est en train de, enfin, notre système de société fondé sur le libre-échange et la liberté individuelle va s'effondrer. On est au bord d'un gouffre civilisationnel et tout. Enfin, ils sont vraiment, bon, ils exagèrent évidemment parce qu'ils ont envie que les gens se bougent pour, voilà, réprimer ce qui existe. Mais ils cliquent quand même.
Intrigués par cette contre-organisation que décrit le philosophe politique Grégoire Chamaillou, nous nous sommes plongés dans son livre « La société ingouvernable » publié en 2018 aux éditions La Fabrique. Il y montre comment, à partir de la fin des années 60 et en réaction aux mouvements sociaux, écologistes et étudiants, se développe le néolibéralisme moderne. Porté par des élites économiques et politiques inquiètes de la situation, il qualifie ce nouveau libéralisme d'autoritaire. Pourquoi ? Car il ne se limite pas à une liberté de marché, sans règles, mais induit un modèle de puissance qui nécessite un état vertical, hiérarchique et des stratégies de contrôle et de réorganisation sociale. Aux États-Unis, une véritable guerre contre les syndicats s'organise avec des agences de juristes et de consultants chargées d'aider les managers à affaiblir toute forme d'organisation collective des travailleurs. Dans le même temps, le modèle de l'entreprise se transforme. Fini le patron propriétaire à l'image paternaliste. L'actionnaire qui n'a parfois aucun lien avec l'entreprise, si ce n'est qu'il apporte de l'argent, est désormais celui à satisfaire, même si cela doit aller contre le bien-être des travailleurs. Chamaillou montre aussi comment les risques sociaux et économiques sont de plus en plus renvoyés à la responsabilité individuelle par le biais du marketing des grandes firmes, au détriment des protections sociales collectives avec l'affaiblissement de l'État-providence. Cette situation n'est pas le résultat d'un ordre naturel, mais celui d'une construction historique et stratégique. Et s'il consacre l'essentiel de son livre à analyser les manœuvres des classes dominantes pour conserver leurs privilèges, il ouvre aussi dans sa conclusion des pistes de résistance. Il rappelle ce qui effraie le plus le capitalisme néolibéral, non pas l'idée d'un État protecteur, mais l'autonomie des travailleurs et leur capacité à contester l'ordre du capital par l'auto-organisation. Il en conclut alors que contre le libéralisme autoritaire, il faut rouvrir le chantier de l'autogestion. Mais si l'autogestion a été combattue dans l'entreprise et marginalisée politiquement, qu'est-ce qui est resté de ces mouvements une fois passés les moments d'effervescence révolutionnaire ? À quoi ressemble-t-il aujourd'hui ? Paloma est partie échanger avec un certain Cédric, qui vit à Longomaille. Longomaille, c'est un réseau de coopératives agricoles et artisanales autogérées, né au début des années 70.
Le point de départ, ça commence donc en 73. C'est deux groupes et une personne qui ont posé l'analyse qu'après 68, le côté de continuer à faire des actions en ville entraînait une spirale de radicalisation des actions et de radicalisation de la répression qui pousse à des travers ou des dérapages qui peuvent amener au terrorisme ou à la lutte armée. Et qu'il y avait un côté d'analyser ce truc-là comme un piège policier, un piège étatique. Du coup, l'idée, ça a été de vouloir créer des bases arrières de survie à partir duquel des actions pourraient être menées pour faire la révolution. Et en gros, les bases arrières sont construites, mais la révolution, ça a un peu foiré jusqu'à présent.
Longomaille, qui signifie que ça dure longtemps, en provençal, porte bien son nom. Le mouvement existe aujourd'hui depuis plus de 50 ans et je me suis demandé, après toutes ces années, à quoi ressemblait une journée type là-bas.
La journée type, alors là, bonjour.
Ok.
On a une réunion par semaine, le vendredi à 14h, pour organiser la semaine. Et là, il y a les équipes qui sont faites et il y a des gens qui disent, mardi, je veux aller planter les poireaux et j'ai besoin de 5 personnes. Je suis sur la construction de la nouvelle salle de découpe et j'ai besoin de 2 personnes. Et voilà. Et entre les habitants, habitantes et les personnes de passage, parce que il y a beaucoup de passages chez nous, on essaye plus ou moins que les équipes fonctionnent.
À partir de là, ce n'est plus seulement une autre organisation du travail qui se dessine, mais un changement de vie plus profond.
Je pense que plus que dans le rapport au travail, j'ai l'impression que le fait d'être hors du travail salarié, c'est le rapport au temps, où on a une réappropriation du temps qui est vraiment très forte. Après, il y a des choses qui sont un peu plus ambiguës, voire potentiellement perverses, enfin qui ont des effets pervers. C'est que vu qu'on n'a pas de séparation entre notre sphère de travail et notre sphère privée, pour aller vite, comme quelqu'un qui travaille salarié, voilà, une fois qu'il sort de l'usine, de son boulot ou quoi que ce soit, il rentre chez lui et puis il peut fermer la porte. Nous, à 21h, on peut avoir une réunion. C'est du travail ou pas? Bonne question. Il y a des gens qui estiment que ce n'est pas du travail. Moi, j'estime que c'est du travail. Après, ce qui est clair, c'est que faire 8 ou 10 heures, moi, je trouve que c'est exagéré. Donc, c'est sûr que, y a un côté où ça va diminuer. Mais voilà, typiquement, là, est-ce que je suis en train de travailler quand je te réponds? Côté de la manière dont on s'organise, quand je parlais du rapport de la réappropriation du temps, c'est que à certains moments, ben voilà, il y a pas ce côté de commencer à telle heure tous les jours machin. On peut changer les horaires de quand on débute suivant la météo, suivant les activités. Voilà, il y a des gens qui vont commencer plus tard et qui pourraient apparaître comme dans notre société comme des fainéants parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, tout ça. Mais d'un autre côté, ils peuvent bosser jusqu'à assez tard. Donc il y a ça et une autre chose, par exemple, ben moi quand j'ai eu un, et ça c'est quelque chose qui est assez partagé, quand j'ai eu un problème dans ma famille où j'avais une hospitalisation et du coup de devoir faire du soutien familial, ben j'ai pas dû négocier avec un patron ou quoi. Et on réussit à, par la solidarité qu'on a, à avoir ce genre quand même de confort, parce que c'est un confort de pouvoir partir au pied levé. Quand il y a ce genre de choses, sans croire que Longomaille est la solution, loin de là, il y a ce côté de dire que c'est quand même possible de tenir un lieu et des activités, voilà, sans salariat, sans propriété privée, sans un certain nombre de choses. Maintenant, j'allais dire sans hiérarchie, en tous les cas, c'est annoncé comme ça, maintenant la question du pouvoir est une question beaucoup plus complexe et voilà, c'est voilà les pouvoirs informels, les pouvoirs formels, tout ça, mais bon, c'est pas propre à Longomaille.
Ce que pointe Cédric, ce n'est pas seulement la difficulté de faire sans salariat ou sans hiérarchie. C'est une autre question plus large qui traverse beaucoup d'expériences autonomes. Comment faire exister des pratiques radicales sans qu'elles ne se transforment en un modèle à reproduire, en une sorte de recette politique ou en une nouvelle norme?
Ça reste un exemple de quelque chose. Après, je trouve qu'il y a un danger à l'uniformité et à l'hégémonie. Et que du coup, je trouve ça très bien qu'il y ait d'autres personnes qui essaient d'autres choses. Moi, les apatistes, ça a été un moment extrêmement important dans mon parcours politique parce que dans un moment où tout se refermait avec la chute du mur, il y a there is no alternative voilà, le capitalisme, le libéralisme a gagné. Ils ont amené quelque chose, ils ont amené un souffle nouveau et dans ce souffle nouveau, ce qui est voilà en total décalage par rapport aux guérillas guévaristes ou marxistes-léninistes qui ont pu exister en Amérique latine, eux ils refusent la prise de pouvoir et ça c'est quelque chose qui m'a fondamentalement parlé.
Le zapatisme dont parle Cédric, c'est un mouvement politique né au Chiapas, au Mexique, dans les années 90, et qui refuse la prise de pouvoir et défend l'autonomie locale. Ce n'est pas une référence absolue pour Longomaille, mais pour Cédric, c'est une inspiration importante. Car Longomaille sort aussi de cette logique de prise du pouvoir. Et c'est justement ce qu'il expose à des critiques, y compris dans le camp progressiste.
Il y a eu des attaques contre Longo qui ont été faites de différentes manières, mais dont une partie venait entre autres, du Parti socialiste, parce que je pense que le côté d'exister en tant que gauche radicale qui critique aussi l'électoralisme, la représentation ou un certain nombre de choses comme ça, ça fait que ben il y avait la rumeur de secte qui existait sur sur Longo, des choses comme ça. Mais en tous les cas, je trouve extrêmement important de continuer à cracher sur le travail. C'est, voilà, faut détruire cette valeur, faut détruire toute la morale qu'il y a derrière ça. Que tu produises des brosses à dents ou des bombes, c'est la même chose, quoi, pour le capitalisme. Ce qui est important, c'est le profit. Donc, ceci étant dit, je sais aussi que ce n'est pas facile de sortir du travail. Donc, il y a tout ce côté, c'est pas nécessairement un truc moral. De dire si tu bosses tu es un ou une social traître, tu peux avoir de bonnes raisons de bosser, et j'ai plein de copains copines qui bossent réellement et tout ça, mais ça n'empêche pas que idéologiquement je trouve que c'est important d'attaquer une des valeurs de base. C'est une des valeurs de base de la société capitaliste.
Trop bien d'avoir l'éclairage de Cédric de Longomaille. Par contre, c'est vrai que faire le choix d'une vie alternative comme ça, bah, je pense que pour plein de gens, ça apparaît complètement impossible par rapport à leur mode de vie, à leur quotidien, surtout en 2025, 2026 maintenant, dans la France à Macron.
C'est vrai. Ouais, mais justement, tu vois, ça date des années 70, ça fait quand même 50 ans que ça dure, et je trouve que c'est ça qui est assez fou avec Longomaille, puisque avec les communautés autogérées comme ça, le problème souvent c'est que ça se disloque assez vite, quoi.
C'est d'ailleurs ce que pointait déjà du doigt Albert Meister, sociologue libertaire suisse. Après avoir travaillé sur les coopératives autogérées entre les années 50 et 70, il finit par théoriser leur dégénérescence progressive. Même les structures les plus démocratiques tendent, avec le temps, à voir le pouvoir se concentrer entre les mains d'un petit groupe. Cette dégénérescence, Baptiste Milondo nous en parle. Au lieu de s'en décourager, l'économiste préfère donner des conseils pour éviter ces pièges.
Albert Meister dit, d'une part, je suis allé voir plein de collectifs autogérés, ça a toujours foiré. Et à chaque fois, il y a d'autres gens qui recréent des nouveaux collectifs autogérés et ça refoire à nouveau. Lui, il dit, du coup, on est condamné à échouer. Nous, on se dit, bon, ben, effectivement, on rate à chaque fois. Par contre, à chaque fois, il y a des gens qui réessayent. Donc, c'est bien la preuve qu'il y a un goût pour l'égalité, pour l'autogestion, etc. Et peut-être que si on veut arrêter d'échouer, il faut juste essayer de tirer les leçons des expériences ratées passées. Et donc, on essaye de mettre en évidence, du coup, des points de vigilance qu'il faut avoir, des questions qu'il faut se poser systématiquement pour éviter de reproduire cette logique de dégénérescence. Nous, on dit, sur chacune des valeurs, la question de la démocratie, la question de l'équité, la question du soin au collectif et aux membres de ces collectifs, il y a des points de vigilance à avoir. Si on a ces questions en tête, alors peut-être qu'on peut essayer d'éviter de reproduire les mêmes travers. Et j'aurais tendance à dire, quand bien même ça ne fonctionnerait pas, eh ben c'est pas grave, tant qu'on recommence systématiquement à défendre ces valeurs, l'idée c'est pas de se dire, on va arriver comme par magie à mettre en place un système parfait, aucun système est parfait. Par contre, donnons-nous les moyens de l'améliorer autant que possible, de se faire face aux problèmes qui se posent en étant en raccord avec nos valeurs.
Démocratiser et reprendre le pouvoir sur le travail et les moyens de production est une lutte qui se joue sur plusieurs fronts. Dans les usines et les entreprises, avec des initiatives portées par les travailleurs et les travailleuses qui font le choix de la coopération, comme chez les Cargonautes. Dans les marges, à l'extérieur du travail, avec des communautés qui proposent des modes d'organisation alternatifs radicalement différents comme à Longomaille. Et enfin, à l'intérieur même des institutions politiques. Sur ce plan-là, on a parlé du revenu inconditionnel, mais d'autres propositions existent. En Espagne, depuis un an, et sous l'impulsion de la ministre du Travail, la communiste Yolanda Díaz, un comité d'experts planche sur des pistes pour renforcer la démocratie en entreprise. Parmi les pistes explorées, celle d'un bicamérisme économique, qui imagine une gouvernance d'entreprise à deux têtes où salariés et actionnaires disposeraient d'un pouvoir égal. On pourrait aller encore plus loin en questionnant la légitimité même d'avoir une chambre de décision pour les actionnaires. Alors certes, démocratiser le travail demande des efforts et de profonds changements structurels, mais comme dit Milondo,
les structures qui ne sont pas autogérées, bah, ça ne fonctionne pas mieux en fait. Il y a plein de problèmes. Et donc nous ce qu'on dit c'est, quitte à avoir des problèmes, autant choisir les bons problèmes, autant choisir les problèmes qui sont en accord avec nos valeurs. Enfin, moi, à titre personnel, je préfère passer mes journées à régler les problèmes de la démocratie qu'à régler les problèmes de la dictature. En fait, c'est compliqué de faire tourner des structures basées sur la hiérarchie, sur la dictature, sur les injustices, parce que c'est ça, en gros. On a commencé l'entretien en parlant des injustices dans la rémunération. En fait, pour pouvoir faire tenir une société injuste, c'est un vrai boulot. ça demande énormément de coercition, c'est une ingénierie sociale qui est quand même particulière. On va autant passer énormément de temps à essayer de faire tenir une société debout, une société plus juste. Donc du coup, c'est pour ça qu'on défend aussi l'autogestion. Choisissons les problèmes auxquels on souhaite consacrer notre vie.
Les Nouveaux Sauvages est un podcast produit tous les deux mois par Radio Campus Paris. Vous pouvez l'écouter sur son site radiocampusparis.org ou vos plateformes d'écoute préférées. Suivez-nous sur Instagram @nouveausauvagespodcast tout attaché, commentez, partagez et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles pour nous soutenir. À très vite.